Christian Théin reste incarcéré en métropole. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé par le leader de la CCAT. Nouvelle-Calédonie, la tragédie, c'est un livre écrit par Patrick Roger, un ancien journaliste du Monde qui connaît très bien la Calédonie juste avant les émeutes de mai dernier. Vous l'entendrez dans ce journal. À l'étranger, les bourses mondiales retrouvent un semblant de stabilité, mais le bras de fer engagé par Donald Trump par le biais d'une hausse des droits de douane se poursuit. 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle. Un réquisitoire violent et politique, estime l'ancien chef de l'État. Et puis dans la page sport du football notamment, les deux premiers quarts de finale aller de Ligue des Champions. Arsenal domine le Real 3-0 et l'Inter de Milan est allé s'imposer sur la pelouse du Bayern de 2 buts à 1. Demain, le PSG affronte Aston Villa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Christian Théin reste donc en détention provisoire en métropole. Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a rejeté la nuit dernière le pourvoi du leader de la CCAT. Il contestait son incarcération à Mulhouse et s'appuyait notamment sur l'enregistrement d'une conversation privée entre lui et son avocat lors d'une visioconférence au palais de justice de Nouméa, Nicolas Legrand.
Oui, une erreur technique selon le procureur général de l'époque, Bruno Dalle. Il assure qu'une fois constaté, l'enregistrement a été immédiatement détruit et n'a jamais été consulté par quiconque. C'est donc là le troisième volet judiciaire de ce dossier. En octobre 2024, la Cour de cassation avait en effet annulé une première décision de placement en détention en métropole. Puis un mois plus tard, la Cour d'appel de Nouméa avait à l'inverse refusé la demande de remise en liberté des avocats de Christian Théin. Aujourd'hui, c'est donc la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a de nouveau confirmé ce placement de Christian Théin derrière les barreaux en métropole en attendant un éventuel procès. Cette nuit, l'avocat général a estimé que le recours à la visioconférence était justifié et que la procédure n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense. Pour rappel, Christian Théin est mis en examen pour 7 chefs d'inculpation. Association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, participation à un groupement formé en vue de la commission de dégradation ou de violence volontaire, vol en bande organisée, destruction de biens commis par incendie en bande organisée et complicité par instigation ou fourniture de moyens des crimes de meurtre ou de tentative de meurtre sur les forces de l'ordre.
Au chapitre des faits divers, l'interpellation de deux hommes la nuit dernière à Rivière-Salée. Une patrouille de la police nationale a repéré peu après minuit un véhicule avec deux personnes à bord qui faisaient des dérapages sur l'une des grandes voies de circulation du quartier. Les policiers ont immédiatement bloqué le véhicule. Ses occupants ont alors pris la fuite, mais ils ont été très rapidement interceptés par les policiers. Après vérification, il s'est avéré que le véhicule dans lequel se trouvaient les deux individus avait été signalé volé il y a quelques jours. Les deux hommes ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte. Et puis revenons sur l'affaire Marquis Lecchia, qui a été suspendu à titre provisoire de ses fonctions de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques. Des fonctions qu'il occupe depuis près de 6 ans, Elisabeth Noir.
Une suspension à titre conservatoire pour le général Marquis Lecchia, qui ne souhaite pas réagir personnellement à cette affaire. Mais il est très affecté, déclare son avocate Maître Le Pape, qui était notre invité du matin à 7h30. Il s'agit, dit-elle, de défendre son honneur et elle déclare ne pas savoir précisément ce qui est reproché à son client. Cette suspension lui a été signifiée par huissier le 21 mars dernier. Il a été abasourdi puis indigné par l'indélicatesse du procédé, affirme Maître Le Pape, même si quelques jours plus tard, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a publié un communiqué pour préciser que le général Marquis Lecchia avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction disciplinaire en attendant l'issue de procédures administratives et pénales menées parallèlement. La réaction de Maître Le Pape.
Je vois ce communiqué un petit peu, peut-être comme un, si vous me passez l'expression, un rétro-pédalage. Je trouve ça assez intéressant d'ailleurs. De toute façon, nous sommes parfaitement sereins de ce côté-là et nous répondrons. Simplement, je voudrais quand même appeler l'attention sur les conséquences. Effectivement, ça n'est pas une sanction disciplinaire puisque la sanction disciplinaire ne peut être appliquée que par l'administration d'origine. Mais il y a des sanctions d'abord psychologiques, morales pour lui, pour sa famille, mais aussi des sanctions en termes d'avancement de carrière, de poste à briguer, ce genre de choses-là. Ça n'est pas anodin. On ne fait pas ça comme ça.
L'avocate du général Marquis Lecchia relève également que cette suspension a été révélée par la presse, ce qui veut dire, dit-elle, qu'il y a eu des fuites au sein de la fonction publique territoriale. Elle indique également que selon les déclarations du procureur de la République sur notre antenne, cette suspension fait suite à deux dénonciations qui viendraient de l'adjoint du général Marquis Lecchia, mais elle affirme ne pas en savoir davantage. Nous lui avons demandé quelle serait la suite de cette affaire, quelle serait notamment la réponse pénale.
Nous avons à cœur de défendre nos intérêts et donc de mettre en place toutes les voies de recours possibles pour rétablir la vérité des faits. Et lorsque je dis toutes les voies de recours possibles, ce sont bien évidemment les voies administratives qui permettront au général Marquis Lecchia administrativement de laver son honneur, mais également toutes les plaintes qui peuvent être déposées, notamment auprès de monsieur le procureur, pour rétablir là encore son honneur et celui de sa famille, parce que on ne peut pas se laisser calomnier ou diffamer comme ça publiquement.
La défense du général Marquis Lecchia envisage de déposer des recours contre cette suspension et des plaintes pour calomnie et propos diffamatoires. Une interview de Maître Le Pape à retrouver bien sûr en audio et en vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Nouvelle-Calédonie, la tragédie. C'est un livre écrit par Patrick Roger, un ancien journaliste du Monde qui suit le dossier calédonien depuis de nombreuses années. Un livre publié en avril 2024, un mois avant le début des émeutes sur le territoire. L'enquête s'ouvre le 24 septembre 1853 avec la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France et s'achève l'an dernier, quelques jours avant le vote des députés sur la réforme du corps électoral. Notre correspondant à Paris, Xavier Robert, a rencontré Patrick Roger, Elisabeth.
Cet ouvrage a reçu le week-end dernier le prix des députés. Il a été remis à l'auteur par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Pour Patrick Roger, ce livre qui revient sur tous les épisodes de l'actualité récente de la Nouvelle-Calédonie, donne aux députés et aux sénateurs des informations dont parfois ils ignorent tout sur le territoire. Patrick Roger, qui répondait donc aux questions de Xavier Robert.
J'ai été très touché et ému par le fait que ce prix soit décerné par les députés. Parce qu'il ne faut pas ignorer quand même une chose, il y avait quand même ici à l'Assemblée nationale une méconnaissance terrible de la question calédonienne, du dossier calédonien. On l'a vu lors de précédents débats, à part 3 ou 4 spécialistes, toujours les mêmes qui interviennent, il y a quand même une faiblesse, une méconnaissance. J'ai eu plein de retours, de témoignages de députés qui disent « on a appris plein de choses, on a découvert effectivement ce qu'est la Nouvelle-Calédonie ». J'ose espérer effectivement qu'avec ce livre, ça va permettre à la représentation nationale de s'approprier un petit peu cette question calédonienne. Et ça me semble d'autant plus important si un accord peut aboutir. Il faudra de toute façon qu'il y ait d'une manière ou d'une autre quelque chose qui sorte de ces discussions et que la représentation nationale aussi s'en empare, à la fois pour lui donner un contenu législatif et même peut-être lui donner une valeur constitutionnelle.
Concernant l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, Patrick Roger estime que l'une des grandes erreurs commises à la fin du quinquennat de François Hollande a été de ne pas suffisamment préparer la sortie de l'accord de Nouméa au moment où se préparait le premier référendum de 2018, d'autant plus que le contexte économique avait évolué et que le nickel commençait à rencontrer de grosses difficultés.
L'économie de la Nouvelle-Calédonie a reposé et continue de reposer essentiellement sur le nickel. Il y a eu des années fastes du nickel, mais à partir des années de 2010, le contexte économique a changé et le secteur du nickel a commencé à connaître ses premiers soubresauts et ses premières crises. C'est à ce moment-là qu'il fallait commencer à réfléchir effectivement à un changement de modèle économique et à trouver une formule de dépassement de l'accord de Nouméa. Il n'y a pas eu de volonté politique de la part de l'État et une incapacité, c'est aussi ce que je pointe dans ce livre, une incapacité des dirigeants politiques calédoniens à se saisir véritablement de ces enjeux.
Patrick Roger s'étonne en effet que juste avant les référendums, la suite du processus n'ait pas du tout été préparée.
Édouard Philippe, le Premier ministre de l'époque, s'est réellement investi dans la préparation de ce premier référendum. Mais il n'avait pas le choix. Quand il réunit le comité des signataires, la seule question dont ils débattent, c'est justement la question de la question qui va être posée. Il n'y a pas de discussion qui aille au-delà de ça.
En tant que journaliste, et il a été longtemps journaliste au Monde, Patrick Roger n'émet pas d'avis sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui l'inquiète, c'est la fracture qui existe entre communautés depuis le 13 mai, une fracture qu'il qualifie de retour en arrière de 40 ans, alors qu'il comptait sur la jeunesse calédonienne pour bâtir le vivre ensemble.
Il y a une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont les dégâts que ces violences, ces exactions, ces affrontements et ces haines ont généré depuis le 13 mai. Je crois qu'il faut mesurer la fracture qui s'est ouverte entre les différentes communautés. Pour moi, c'est un terrible gâchis, c'est un retour en arrière de quasiment de 40 ans. On ne peut pas mésestimer aujourd'hui le chemin qu'il va falloir refaire pour arriver à reconstituer effectivement ce tissu intercommunautaire. Et malheureusement, moi je fondais énormément d'espoir dans la jeunesse calédonienne, le fait que les jeunes calédoniens aujourd'hui avaient appris à vivre ensemble, à jouer ensemble, à étudier ensemble, à travailler ensemble, à se former ensemble. Et aujourd'hui, ces fractures réapparaissent, y compris même dans les cours de récréation, dans les cours d'école, à l'université. Je dis, c'est un terrible échec qu'il va falloir remonter ensemble.
Nouvelle-Calédonie, la tragédie, un ouvrage du journaliste Patrick Roger qui vient donc de recevoir le prix des députés qui lui a été remis par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Et sachez, si cela vous intéresse, que 300 exemplaires de l'ouvrage ont été expédiés en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Selon vous, le FLNKS va-t-il accepter d'entrer en négociation après sa convention du 26 avril? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier. 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent croire à une éclaircie du secteur du nickel en Calédonie. Ils sont 39% à dire qu'ils n'y croient pas. À 11h42, la première pause de ce journal. Dans un instant, c'est le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixone, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Nouvelle-Calédonie poursuit sa transformation numérique avec l'arrêt progressif du réseau cuivre pour une transition vers la fibre optique. Un projet porté par l'OPTNC qui vise à offrir une connexion plus rapide, fiable et durable à tous les Calédoniens. Lionel Sabot.
Le réseau cuivre, vieux de plusieurs décennies, est désormais obsolète et surtout coûteux à entretenir, explique l'Office des postes et télécommunications dans un communiqué. Dans 2 ans, toute la téléphonie fixe et l'Internet passeront exclusivement par la fibre, une technologie bien plus adaptée aux usages numériques qui ne cesse de se développer. Pour les utilisateurs, les avantages sont nombreux. Une vitesse de connexion jusqu'à 16 fois plus rapide que la DSL, une stabilité accrue et une meilleure résistance aux intempéries. Des avantages également pour l'office, avec des coûts d'exploitation réduits et une meilleure efficacité énergétique. Aujourd'hui, la fibre est disponible dans 20 des 33 communes de Nouvelle-Calédonie. Récemment, ce sont les communes de Poya et de Lifou qui ont été connectées à la fibre. Le démantèlement progressif du réseau cuivre s'étalera sur plusieurs phases, avec une première grande étape prévue pour fin 2025, où la commercialisation des offres sur le réseau cuivre cessera. Cette transition est bien plus qu'un simple changement technologique, explique l'Office. Elle représente un levier essentiel pour le développement numérique du territoire, avec des objectifs clairs. D'ici 2027, 100% des foyers et entreprises seront éligibles à la fibre ou aux solutions mobiles.
L'actualité aérienne, avec des vols et des capacités supplémentaires ponctuelles annoncées par Air Calin. La compagnie ajoute en effet 2 rotations exceptionnelles entre Nouméa et Wallis. Elles sont prévues les 5 et les 19 juin. Et puis Air Canada renforce également sa capacité de siège et de fret sur les rotations entre Nouméa et Nandi. Les rotations du 13 et du 20 mai seront opérées en A330neo. Les vacances scolaires ont commencé vendredi dernier pour les élèves et des activités proposées pour les enfants sont nombreuses sur tout le territoire pendant cette période. À Nouméa, la Maison de la Biodiversité a mis en place un programme assez large avec des activités quotidiennes et une exposition. Georges est animateur socio-éducatif à la Maison de la Biodiversité.
On a une petite expo qu'on a préparée, ça s'appelle Terreau. Ça parle un petit peu du littoral de Nouméa. Il y a beaucoup d'ateliers gratuits qui ont été mis en place depuis le début du mois d'avril. On a l'atelier observation au microscope spécial terreau, ça sera le jeudi 10 et le 17 avril. Du mardi au vendredi, tous les jours, la découverte virtuelle des écosystèmes de littoral nouméen. On utilise la réalité virtuelle pour pouvoir un petit peu s'évader dans les écosystèmes qui sont autour de la maison de la biodiversité. Et après, on a le chant et bruit des cris des animaux, donc les bruits des nous tous, ça fait... Le bruit de l'éléphant, ça fait... Donc c'est une activité assez drôle.
Et voilà, et le programme complet des animations à la Maison de la Biodiversité est à retrouver sur le site internet de la ville de Nouméa. L'actualité dans la région Pacifique. À Wellington, le gouvernement de Chris Laxon a annoncé une forte augmentation du budget de la défense. Il devrait doubler dans les années qui viennent. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Chris Laxon a précisé que le budget défense va passer de 1 à 2% du produit intérieur brut afin, a-t-il dit, de développer une armée moderne et apte au combat. À cet effet, une somme équivalente à 550 milliards de nos francs va être allouée à l'acquisition de nouveaux avions et hélicoptères de transport, à la modernisation des deux frégates de la marine et à l'achat de drones et de missiles. La ministre de la Défense, Judith Collins, a indiqué que son pays développera aussi des capacités de frappe plus sophistiquées qui offriront une létalité accrue et un effet dissuasif, et a ajouté que le nouveau plan mettra l'accent sur le renforcement de l'interopérabilité avec l'armée australienne qui, a-t-elle noté, demeure notre seul allié militaire. Les nations du Pacifique seront heureuses de voir l'armée néo-zélandaise renforcer ses capacités, a quant à lui estimé Chris Luxon. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h47, il est temps de marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir dans un instant l'actualité à l'étranger et en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Les bourses mondiales ont retrouvé un peu de stabilité après plusieurs jours de fortes perturbations et de baisses sensibles. Mais les inquiétudes persistent parce que les États-Unis ont finalement décidé de taxer les produits chinois à 104%. Les autres pays s'organisent en attendant et organisent surtout la riposte après l'annonce de la hausse générale des droits de douane aux USA, hausse qui entre en vigueur aujourd'hui. Nombre de pays entreprennent des négociations avec l'administration américaine. C'est le cas aussi de l'Union européenne. Donald Trump a refusé la proposition d'Ursula von der Leyen d'annuler les taxes sur les produits industriels des deux côtés. L'Union européenne change donc son fusil d'épaule et prévoit une première riposte d'ici une semaine avec une liste de produits américains à taxer. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Sur cette liste provisoire, des produits agricoles comme le soja, la volaille, le riz ou des fruits, les motos américaines déjà taxées en 2018, le maquillage ou encore des équipements électriques, mais pas de bourbon. C'est une concession faite à Washington, concession sous la contrainte car Donald Trump menaçait de répliquer avec 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux européens. L'UE a donc choisi de protéger les Français et Italiens, plus gros producteurs mondiaux de vin et très liés au marché américain. Les produits présents sur la liste européenne, bourbon mis à part, donc seront taxés à partir de la mi-mai si Bruxelles et Washington ne trouvent pas de terrain d'entente d'ici là. Hier, Donald Trump a refusé la proposition européenne, mais il a ouvert une porte. Il faut que les Européens s'engagent à acheter l'équivalent de notre déficit commercial en énergie. Le gaz naturel liquéfié américain apparaît donc comme une clé du dialogue. Depuis 2002, les États-Unis se sont imposés comme le premier fournisseur de gaz de la France, une manière de compenser la baisse drastique des importations de gaz russe.
En métropole, c'est une proposition qui provoque de nombreuses réactions. Dans une interview au JD News, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, propose en effet d'enfermer les clandestins sous OQPF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il estime entre autres que certains, face aux conditions météo sur l'île, préféreront rentrer chez eux, surtout que l'aller vers Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait accompagné d'aucun retour possible en métropole. Manuel Valls et Marine Le Pen notamment ont exprimé leur fort désaccord sur cette proposition. Notez que le Parlement a définitivement durci le droit du sol à Mayotte. Députés et sénateurs ont adopté définitivement un texte qui concerne les enfants nés à Mayotte de parents étrangers. Pour obtenir la nationalité française, il faudra désormais que les deux parents soient en situation régulière depuis au moins un an. Le Parlement qui entame l'examen maintenant de deux textes séparés sur la fin de vie. Le premier concerne la délicate question du droit à mourir. Le second porte sur les soins palliatifs. Sur Europe 1, le ministre de la Santé a clairement donné priorité au développement des soins palliatifs. Alexandre Chauveau.
Pour Yannick Noeder, ce doit être la priorité des députés. Le ministre de la Santé souhaite ainsi combler le manque d'unités de soins palliatifs en France. Car aujourd'hui, un patient sur deux qui souhaite y avoir recours n'y a pas accès. Yannick Noeder promeut ainsi le plan décennal du gouvernement sur le sujet, qui prévoit 100 millions d'euros par an pour développer ces unités. Il témoigne de son expérience de cardiologue au micro Europe 1 de Pascal Pro.
En 25 ans, je n'ai pas eu une seule demande d'aide active à mourir parce que malheureusement, quand les patients n'avaient pas leur greffon, eh bien, ils intégraient une unité de soins palliatifs. Il n'y avait pas de douleur, il y avait une prise en charge psychologique. C'était aussi le moment pour que le patient puisse faire le point sur sa vie, dire au revoir. J'ai vu aussi des beaux échanges de gens qui se sont réconciliés, qui s'étaient perdus de vue pendant 20, 30 ans. Et je crois que c'est surtout ça le saut sociétal sur lequel il faut qu'on réfléchisse.
Alors, si le texte était malgré tout voté, Yannick Noeder souhaite encadrer davantage les conditions du geste létal. Le ministre souhaite notamment imposer dans la loi un minimum de 3 avis médicaux, alors qu'un seul suffit dans la proposition de loi actuelle.
Toujours dans l'actualité, en métropole, 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce sont les réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Il était jugé dans le procès du financement présumé libyen de sa campagne 2007. L'ancien chef de l'État a parlé d'un réquisitoire politique et violent. Son avocat, maître Christophe Ingrin, estime que les réquisitions ne sont pas du tout proportionnées à la réalité du dossier.
Pour nous aujourd'hui et pour le président, il s'agissait de démontrer combien on est face à une construction qui est totalement artificielle, qui part d'un postulat qui est la campagne de Nicolas Sarkozy 2007 aurait été financée par la Libye. Et c'est à partir de ça qu'un dossier a été construit en s'appuyant sur des approximations, sur des témoignages qui sont des témoignages très douteux, qui sont surtout nés de l'intervention de la France en Libye en mars 2011. Le parquet n'utilise même plus le mot de preuve. Ils utilisent pour ce dossier le concept de faisceau d'indices, c'est-à-dire une preuve un peu dégradée. Et même des indices précis et concordants, on ne les a pas. Le président a pris la parole en dernier pour dire son souhait, plus que tout, que le tribunal réussisse à dire la vérité dans ce dossier. Et la vérité, elle est très simple, c'est qu'il n'y a pas de financement de la campagne électorale de 2007 par la Libye.
Et les avocats de Nicolas Sarkozy ont bien sûr plaidé la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 25 septembre. Et puis, c'est un monument qui fait l'une des fiertés des Bordelais, mais il est en danger. Le pont de pierre bicentenaire menace en effet de s'effondrer sur lui-même. Cet ouvrage de 500 mètres va être rénové et les travaux vont durer au moins 4 ans. Stéphane Place pour Europe 1.
Bordeaux sans pont de pierre, c'est plus Bordeaux.
Il est au centre des deux rives et il est beau.
Mais construit il y a un peu plus de 200 ans, le pont de pierre sur lequel circulent le tramway, les piétons, les vélos, 60 000 personnes chaque jour, s'affaisse sous son propre poids, s'enfonce de quelques millimètres par an dans la Garonne, au risque à terme de se fissurer, de s'effondrer. Scénario catastrophe qui justifie ce chantier de 50 millions d'euros. Olivier Auquin, du service ouvrage d'art de Bordeaux Métropole.
Déjà, on va reprendre les fondations jusqu'à atteindre les sols porteurs de la Garonne, à peu près à moins 30 mètres. Aujourd'hui, les fondations existantes descendent jusqu'à moins 13, moins 15 mètres. L'objectif, c'est de passer entre les pieux existants en bois. On va rajouter des pieux qui vont pas reprendre en totalité la charge du pont, mais qui vont le conforter et limiter son enfoncement. Des micro-pieux, 16 par pile, avec les techniques de forage que l'on a aujourd'hui.
Et ces travaux, qui doivent se terminer mi-2029, permettront aussi de refaire les l'étanchéité du pont de pierre, d'immerger d'énormes roches également dans les eaux de la Garonne pour protéger les piles de l'ouvrage. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
11h54, la dernière pause de ce journal et dans un instant, c'est la page sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le marché de Boulari change ses jours et horaires d'ouverture. À partir du 4 avril, retrouvez nos commerçants de 7h à 17h en continu tous les vendredis et samedis, de 6h à midi tous les dimanches. Le marché de Boulari, c'est toute la richesse de la proximité. Infoline 96 07 09.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 40 20. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on commence par le football. Il y avait ce matin les deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Léo Fichou.
Arsenal recevait le Real Madrid et le Bayern Munich défiait l'Inter de Milan. Dans la première rencontre, Arsenal a réalisé le match parfait en écrasant le Real 3-0. Declan Rice a réussi un doublé sur coup franc direct avant que Mikel Merino n'enfonce les Madrilènes tenants du titre. Arsenal 3, Real Madrid 0. Donc, et dans la seconde rencontre de la matinée, l'Inter de Milan est allé s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich. Lautaro Martinez avait ouvert le score pour les Italiens en fin de première mi-temps. Mais c'est en fin de match que tout s'est joué. À la 85e, Thomas Müller a égalisé pour le Bayern avant que Davide Fratesi n'offre la victoire aux Milanais à la 88e minute. 2-1 pour l'Inter de Milan face au Bayern. Demain matin, le PSG recevra Aston Villa et Dortmund sera sur la pelouse du Barça.
En tennis, 4 Français sont qualifiés pour le deuxième tour du Masters 1000 de Monte Carlo.
Le numéro 1 français, Arthur Fils, sera opposé à l'Italien Flavio Cobolli. Gaël Monfils et Alexandre Muller auront fort à faire contre les têtes de série numéro 7 et 9 du tournoi. Gaël Monfils défiera Andrei Rublev. Alexandre Muller jouera contre Daniil Medvedev. Enfin, le vétéran Richard Gasquet jouera contre Daniel Altmaier, issu des qualifications. On notera l'élimination d'Alexander Zverev, tête de série numéro 1.
Le sport dans la région, on repart le football. En effet, Tigasport dispute cet après-midi les demi-finales de la Ligue des champions d'Océanie.
Les Cagous sont usés physiquement et psychologiquement, nous expliquait le coach Léo Lopez, mais après 2 jours basés sur de la récupération, ils sont prêts à affronter cet après-midi Ekari United, club de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux équipes s'étaient affrontées en 2023, c'était déjà en O-League et les Calédoniens s'étaient imposés 1-0. Cet après-midi à 16h, c'est une place en finale qui se joue et les joueurs de Léo Lopez abordent cette rencontre sans pression.
C'est déjà un exploit pour nous de pouvoir avoir pu accéder et se qualifier pour cette demi-finale. On pensait vraiment pas pouvoir le faire par rapport, encore une fois, à notre préparation compliquée. Mais voilà, la bande, les garçons ont montré qu'avec de la détermination et de minimum d'organisation, ils pouvaient faire de très grandes choses. Maintenant, voilà, il y a un gros état de fatigue, à la fois physique et psychologique. Mais bon, on peut compter sur les garçons qui vont essayer de mettre le peu de force qu'il leur reste dans la bataille et tout faire pour essayer de créer un nouvel exploit.
Tigasport et Cari United, c'est donc à suivre dès 16h sur le site FIFA+. L'autre demi-finale entre Auckland City et Ifira Blackbird doit débuter dans 2 petites minutes à midi.
Et on va terminer avec du volley sur le territoire. Dans une salle de Lanzvata archi-comble hier soir, les sélections calédoniennes ont dominé celle de Wallis et Futuna.
Une semaine amicale entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui a débuté donc hier soir effectivement à la salle Omnisport de Lanzvata devant de nombreux spectateurs, parfois supporters même. Les joueuses calédoniennes ont gagné le 3-7-1. Les hommes se sont imposés 3-7-0. Une belle soirée pour le président de la Ligue calédonienne de volleyball, Moïse Kalemou.
Très satisfait dans tout l'engouement qui a été mis, la dynamique qui a été mise par les bénévoles, le monde du volley était présent. Donc on a senti un besoin de se rassembler autour d'un beau match. Parce que voilà, après il y avait du spectacle, il y avait tous les ingrédients pour qu'on passe une bonne soirée. Donc niveau sportivement, très, très satisfait. Donc victoire des deux équipes, soit les filles et les garçons, et dans la manière aussi. Hein, donc voilà, 3-7-1 et 3-7-0.
Et la deuxième manche est prévue ce soir entre les sélections calédoniennes et celles de Wallis et Futuna. Rendez-vous dès 18h à Boulari, l'entrée sera gratuite.